Jean Evensen Lizer pour une intervention concernant donc la construction du feeling du mélomane, mais également du rappeur pratiquant, qui est en fait une intervention liée au travail de thèse que Jean prépare actuellement au sein du département de sciences de l'éducation de l'Université de Paris 13. Qui est donc une thèse dans laquelle il s'interroge sur les processus de construction du sujet à travers la pratique du rap et sur les diverses formes d'apprentissage informel qui déterminent le devenir rappeur.
Salut à tous et à toutes. Je voudrais commencer cette présentation avec un extrait de musique.
M'a tout fait oui, Mareyo, la gueule mimi, la gueule, sans importance. En pile moun ap marché, dit que yo c'est nek sérieux. Moi pas facile, vignon moun pour faire confiance. Magouille, mon privé, conscience. Ça marche en pile, pas boy ici. Pour le travail ici, qui me fait mal en pile pour petit lit. Cap combat chaque jour pour un changement de vie. À la fois, faut bel garçon. Richesse, faut petit à tout, mal passé, boisson. Les nègres affamés, mange moun, les gars mangeurs. Ces paroles viennent du plus profond de mon cœur. Fais bien, moi je n'ai que la vie. Fais mal, moi je n'ai que la mort. Ou dis-moi quoi, comme tout, j'aime, c'est un grave. Yon frère grave, c'est descendre à quoi la mort. Bah, j'ai un Yo pig et yo crayon syndrome. Les mecs qui vous tout homme. Respect pour monsieur le président. Respect pour nous tous dans le parlement. Chaque fois pas pour gouvernement. Notre budget résilien, c'est nous dévoter. Pas oublier songer, c'est année qui a passé. Faut aller, pas mettre tête qu'on a négocié. Après la pluie, c'est bon temps. Après l'hiver, c'est le printemps. Après souffrance, c'est délivrance. Maintenant, mon dernier jour, avec la parole.
Alors là, vous venez d'écouter un extrait d'un morceau intitulé Fon Parler du groupe Masters. Un groupe qui a vraiment eu une grande popularité en Haïti dans les années 90. Alors, c'est juste pour introduire ma présentation. Alors, cette présentation que je vais faire s'inscrit dans le cadre d'un travail de thèse que je réalise à l'Université Paris 13, comme a si bien dit et Mme Molinero. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter une réflexion qui a pour titre « Raison et liaison du rap, comment se construit le feeling du rap, du rappeur pratiquant et du mélomane du rap ?» Alors, mes réflexions dans le cadre de cette thèse s'inscrivent d'être dans la lignée des travaux déjà réalisés par le laboratoire Experis qui s'intéresse à des formes de construction de savoir non formelles, à la construction du sujet pratiquant dans des espaces vraiment qui n'ont pas été constitués pour apprendre, mais des espaces où l'on fait des apprentissages. Moi, pour le rap, je peux considérer le rap comme étant un espace où l'on peut faire vraiment des apprentissages et où l'on articule des savoirs formels et informels et qui participent de ce processus que j'appelle le devenir rappeur. Et c'est ce qui m'intéresse dans le cadre de cette thèse. Et je vais vous entretenir à partir sur la base de ce sujet. Alors, mes réflexions aussi s'inscrivent dans la lignée des travaux réalisés par le laboratoire et la DIREP, dont je suis membre, un laboratoire rattaché à l'Université d'État d'Haïti. Cette réflexion que je vous propose, et je l'ai préparée à partir des travaux, des matériaux tirés d'un corpus que j'ai constitué à partir des entretiens semi-directifs réalisés auprès des rappeurs et des fans de rap évoluant en Haïti au cours de entre 2013 et 2016. Alors là, tout de suite, je vous présente un plan de cette présentation, comme vous pouvez le voir et afficher. D'abord, je vais essayer de voir l'émergence et le développement du rap en Haïti, les grandes orientations des travaux de recherche sur le rap. Et à partir de là, je peux identifier trois grandes pistes de compréhension concernant le rap. Et en troisième lieu, je vais essayer d'aborder la notion de feeling du rap, du feeling du fan du rap et du rappeur pratiquant. Et en dernier lieu, je vais essayer d'aborder la question du processus de construction du feeling du rap, et ce qui sera suivi par une conclusion. Alors, rapidement, disons que le rap est apparu en Haïti depuis la fin des années 80 avec un rappeur, un musicien, un journaliste qui s'appelle Master G. Mais le rap a attendu les années 90 pour connaître une très grande extension en Haïti. Et à ce moment-là, on pouvait vraiment constater un certain enthousiasme de la part des jeunes pour le rap en Haïti. Il y a eu l'émergence de toute une série de groupes qui se sont gagnés une certaine popularité en Haïti. Et depuis, ça continue et le rap fait son chemin. Et en Haïti, cette musique s'installe vraiment, s'incorpore dans le décor sonore de ces milieux et s'installe tranquillement dans les habitudes en matière de communication et de consommation musicale. Et le rap en Haïti, à l'heure actuelle, ce n'est plus une question ce n'est plus une affaire de jeunes, mais c'est également une affaire d'adultes qui ont été séduits au cours des 30 dernières années par le beat, par les rimes, le flow et surtout la force d'attraction de la musique et rap. Alors, cette pratique m'interpelle, la pratique du rap m'interpelle et me pousse à formuler quelques questions qui méritent d'être abordées si l'on essaie vraiment de réfléchir sur le rap. Alors, je me demande quels éléments du contexte permettent de comprendre le développement du rap en Haïti. Comment les rappeurs parviennent-ils à pérenniser la pratique du rap dans le pays? Et à ce moment-là, on peut constater que le rap est vraiment un objet complexe à saisir. Quand on essaie de réfléchir sur le rap, on peut voir que ce n'est pas vraiment une simple affaire. Ça demande vraiment d'asseoir une réflexion systématique et pour mobiliser les travaux qui ont déjà été réalisés. À ce moment-là, quand on essaie de fouiller dans la littérature relative au rap, à la musique rap, on peut constater qu'on peut identifier plusieurs points de vue. Selon Béatrice Bernat, qui a présenté un texte qui s'appelle « Une sociologie du rap à Marseille », et on peut, hormis les idées reçues et les préjugés concernant le rap, il y a trois types d'approches qui concernent le rap. Un état des lieux sur les origines historiques, une analyse plutôt poétique et musicologique fondée sur les textes et les musiques, et enfin une réflexion de nature sociale, sur la nature sociale du phénomène. Et à partir de ces approches-là, on peut vraiment classer des auteurs qui ont une certaine notoriété dans ce domaine-là, comme Tricia Rose, Hugues Bazin, Jeff Chang, et Christian Béthune, Martinez, et Perrier, Jean-Claude, et ainsi de suite. Donc, à partir de mes analyses sur le rap haïtien, je peux dégager trois horizons de sens concernant le rap haïtien. Alors là, le dernier horizon de sens que j'ai pu dégager sur le rap et concerne beaucoup plus cette présentation. Alors, le rap comporte une dimension d'engagement en ce sens qu'il sert de porte-voix à ses pratiquants pour exprimer les difficultés de leurs conditions de vie. Les rappeurs expriment à leur manière ce qui, à leurs yeux, mérite d'être dit sur la réalité haïtienne. Ils déplorent et décrivent les conditions matérielles de vie des Haïtiens les plus pauvres, invitent à réfléchir sur des problèmes de société et dénoncent des attitudes politiques et des mécanismes structurels qui servent d'entrave au bien-être collectif. Ça, c'est le premier horizon de sens qu'on peut dégager sur le rap en Haïti. Le rap est une expérience de liberté permettant à ses pratiquants d'investir une scène politique traditionnellement contrôlée par les acteurs les plus nantis socialement et économiquement. En ce sens, c'est un art de la résistance. Le deuxième horizon de sens que on peut dégager, c'est que le rap est peut-être envisagé comme une lutte pour la reconnaissance. Et une lutte pour la reconnaissance dans la lignée des travaux déjà réalisés par Axel Honneth, par Viviane Châtel sur l'inexistence sociale, et aussi bien que des travaux réalisés dans le domaine de la construction identitaire. Et je peux citer par exemple Carmel Camilleri. Troisièmement, le rap est peut-être envisagé comme comme un espace de construction des savoirs informels, des savoirs formels et des savoir-être. Et c'est là où réside en partie la modeste contribution de mon travail sur le rap, le travail de thèse que je réalise. Alors, personne ne peut un beau matin s'autoproclamer rappeur, ni même fan du rap. Faire du rap requiert un ensemble de capacités, par exemple, pouvoir improviser, et développer des habiletés linguistiques, et pratiquer une certaine oralité poétique, maîtriser des techniques récitatives, savoir se mettre en scène, etc. Le devenir rappeur passe par l'articulation de ces formes de savoir construites de manière informelle par le rappeur pratiquant, sujet de ses apprentissages et témoin de ses expériences singulières. Cette piste de compréhension rejoint également l'idée selon laquelle l'individu humain apprend quotidiennement, surtout à partir des multiples situations qui se présentent de manière plus ou moins régulière dans son environnement immédiat. Là, je peux citer Gilles Bougère qui a travaillé dessus. Le rap, en tant que pratique sociale, avec son potentiel d'effet éducatif, constitue pour l'individu qui s'y adonne une énorme source d'opportunités d'apprendre. Cette dimension d'apprentissage et formation de la pratique du rap m'interpelle et je me suis posé la question de savoir quelle forme spécifique de savoir participe de ce processus complexe qu'est le devenir rappeur. Alors je définis le devenir rappeur comme étant un processus dynamique et complexe par lequel un individu apprend à construire et à articuler des savoirs et des savoir-faire formels et informels dans le champ de la pratique du rap et, par là même, à s'y créer un certain mérite de par les compétences qu'il a su développer. Et il est possible d'identifier plusieurs pistes de compréhension et de proposer quelques éléments de réponse à la question de savoir comment se construit le devenir rappeur. Alors, l'objet qui m'intéresse ici, c'est surtout la construction, la fabrication de ce feeling qui accompagne le rap. Je m'intéresse particulièrement à l'effet de fascination du rap et à la manière dont le fan et le rappeur construisent le goût pour le rap. Car si le rap a su se pérenniser tant qu'en Haïti qu'en milieu international, et c'est parce que cette pratique musicale contient un fort potentiel d'attraction, ce qui a été exploré par Stéphanie Molinero dans le contexte français. À vrai dire, ce style musical, dans ses diverses modalités d'expression, contient ce qui peut attirer un mélomane, ce qui peut l'animer, le porter jusqu'à l'admiration. Et je pourrais vous faire part à ce moment-là d'un extrait d'entretien tiré d'un entretien que j'ai eu avec un rappeur qui s'appelle Renaud. Et il a dit, très tôt, j'ai été traversé par une grande sensibilité pour le rap. Je me sens travaillé par le style même. J'ai l'impression que je suis mu par un mouvement de passion pour le rap. La passion violente allait venir vers 2001-2002. Alors, j'utilise le terme de feeling du rap pour traduire cet état ou ce sentiment de délectation que procure un morceau de musique dans le rap dans le cas qui nous concerne, à celui qui l'écoute. Le terme de feeling s'est révélé très récurrent dans les entretiens que j'ai eus avec les rappeurs et j'ai estimé juste de pouvoir rapporter ce thème-là et pour traduire vraiment ce qui a été exprimé au cours des entretiens que j'ai eus avec les rappeurs. Et c'est en fonction de ça que j'ai adopté ce thème de feeling. Alors, ce qu'il convient de nommer feeling se fonde sur des éléments de contenu sonore qui, dans un morceau de musique, interpelle ceux qui écoutent dans ses sensibilités et dans sa manière d'apprécier et le porter à éprouver des sentiments complexes de joie, de distraction. Cette réflexion sur le feeling du rap s'inscrit dans la lignée des travaux théoriques qui ont déjà été réalisés et sur l'attachement, par exemple, et Antoine Aignan, l'appréciation, l'amateurisme, là je cite encore Molinero, l'investissement musical, là je cite Amour, Karim Amour, en 2007. Le feeling est de l'ordre du ressenti, de l'éprouver. Il s'exprime par exemple à travers cet extrait de l'entretien que je viens juste de vous présenter et je pourrais avancer un autre extrait là que vous pouvez voir et le qui a été exprimé par le rappeur K.O. Alors, ce qu'on peut constater à partir de ces extraits d'entretien, c'est que le rappeur pratiquant ou le mélomane du rap utilise souvent d'autres expressions proches de ce sentiment de plaisir éprouvé en savourant un morceau de rap. Et l'un des thèmes les plus expressifs du feeling est celui de vibe en anglais, vibration en français. Une sorte d'énergie extraordinaire qui anime celui qui écoute ou qui chante du rap. Cette vibration, ce feeling, est susceptible d'apparaître devant la rythmique d'une chanson, les jeux de mots, la manière dont les mots sont déposés sur la rythmique, la qualité de la voix de celui qui chante, etc. Le feeling est purement subjectif et donc relatif. Il varie selon les circonstances, les situations objectives, les individus, les dispositions individuelles, etc. Devant un même morceau de musique, et un individu peut éprouver un feeling et à géométrie variable, qui peut varier entre joie et euphorie, entre simple amusement et une grande réjouissance. Et ceci étant dit, il est loisible de comprendre que tout le monde ne n'éprouve pas ce sentiment de plaisir face à une sonorité rap, de même qu'il n'est pas un allant de soi de devenir admirateur du rap. Et il reste à savoir comment se construit cette admiration, ce feeling pour le rap. Comment ce feeling du rap se met-il en place? Alors là, je vais afficher un titre qui peut exprimer vraiment ce que j'ai à dire sur la construction du feeling du rap, ce qui sera suivi par ma conclusion. La fabrique du feeling du rap est comme lieu de socialisation. Alors, je fais référence à alors, j'utilise ce thème de socialisation dans le cadre de mes analyses sur l'écoute du rap, mais j'inscris ce thème-là dans les débats. Ce thème de socialisation est bel et bien inscrit dans les débats théoriques qu'il a suscité en sciences humaines et sociales. Il est possible d'observer des mécanismes similaires dans le processus de fabrication de l'amateur et du rap ou du rappeur. En fait, si le rap attire autant de fans à travers le monde, c'est qu'il s'accompagne d'un fort potentiel de sensibilisation, c'est-à-dire qu'il a une relativement grande capacité à susciter de l'intérêt quant à la teneur de ses textes et surtout à la manière des rappeurs d'accorder leurs propos aux fonds musicaux de leur choix. Ce potentiel de sensibilisation se trouve renforcé par un phénomène de socialisation s'incrustant au cœur des liens développés entre pratiquants et fans du rap et d'une manière générale au sein du rapport existant entre cette variante musicale et ceux qui s'y adonnent. Ainsi, c'est le rap lui-même qui est devenu un lieu de socialisation puisqu'il est une pratique sociale qui façonne ses adhérents à sa manière, en même temps qu'elle est façonnée par ceci. Autrement dit, la socialisation dans le rap consiste en une intériorisation par l'amateur ou le rappeur pratiquant de gestes significatifs, de disposition d'être, de posture d'écoute, de goût, de manière d'apprécier, qui font de lui un individu reconnaissable par rapport à ce style musical. C'est un processus de socialisation. C'est par le processus de socialisation que mélomane du rap parvient à construire progressivement un mode de savoir écouter qui lui permet de reconnaître un bon morceau de rap et d'en éprouver le plaisir. Parler de socialisation en ce sens-là, c'est donc mettre en évidence l'effet de façonnement qu'exerce la musique rap sur l'amateur ou le pratiquant qui s'y adonne, un travail de relative conformation qui sert de facteur fondamental à une réception favorable de cette variante musicale. La proximité avec le rap entraîne une incorporation des manières d'écouter, de sentir et de vivre cette musique, et de là se construit le feeling du rap. En ce sens, je pourrais rapporter ici quelques mots de Jim, et que j'ai cité ailleurs dans un autre article, un rappeur avec qui j'ai réalisé plusieurs entretiens. Et je cite, « Si tu n'écoutes pas de rap, tu ne pourras pas comprendre ce qui c'est et il te sera très difficile de devenir un rappeur. » Fin de citation. Ce que l'on peut déduire de cet extrait d'entretien, c'est que la capacité à apprécier le rap et à exercer en tant que rappeur présuppose l'acquisition d'une posture d'apprentissage et une disposition d'action construite par un phénomène complexe de socialisation consistant en une intégration des normes, des manières d'être. Alors là, je pourrais faire référence aux travaux de Claude Dubas sur la notion de socialisation. De convictions intimes liées à la musique rap. La pratique du rap donne lieu à une double fabrication. D'abord, elle s'élabore et se maintient à travers des actions posées par les pratiquants et leurs fans. Et ensuite, en retour, elle façonne destinateurs et destinataires par la création chez eux d'un goût musical, des manières d'écouter, des rapports à la musique qui s'apprennent par une sorte d'immersion. À vrai dire, il faut plonger dans le rap pour pouvoir sentir les vibrations des beats qu'il charrie, apprécier l'aisance d'un rappeur dans son flow et la puissance poétique de ses rythmes. Tout ceci passe d'abord par un processus de socialisation rendu possible par le développement d'un mode de rapport à la musique rap. Ce processus de socialisation favorise au sein des rappeurs et des pratiquants du rap d'une communauté d'expériences et de sens entre rappeurs et public potentiel du rap. La constitution de cette communauté d'expériences et de sens sert de condition préalable pour que les propos du rappeur puissent avoir un écho biographique chez chacun de ses membres du public du rap. L'écho biographique réfère, je donne la définition de ce que j'appelle l'écho biographique, et cette notion réfère à l'idée d'une résonance suscitée par la musique rap en termes de similarité de conditions et d'expérience dans la vie des individus en position d'acteur et ou de destinataire. C'est cette communauté d'expérience et de sens qui fait que le rappeur soit un haut-parleur pour portant haut et fort la parole des autres. Pour pouvoir apprécier le rap, il faut accepter de se dépouiller des cuirasses de la facilité, faites de raccourcis, de prénotions, de préjugés, pour se laisser entraîner par la rythmique, le flow, la poésie, les messages de cette musique. Il y a là une posture épistémologique et éthique fondamentale. De plus, celui qui veut devenir rappeur doit développer des habiletés. Ce processus pose un double défi de connaissance et de façonnement de soi. Il implique l'individu lui-même dans un rapport particulier au savoir. Alors, je voudrais conclure. Alors, en conclusion, je dirais que les modalités de réception du rap, en dépit des réflexions auxquelles elles ont donné lieu, restent un chantier ouvert aux sciences humaines et sociales. Beaucoup de questions méritent un travail d'approfondissement systématique. Par exemple, on pourrait se poser quelques questions qui répondent. Pourquoi, malgré la diffusion et l'expansion du rap dans le monde, beaucoup continuent de voir dans cette variante musicale une pratique vile, un bruit nuisible et l'apanage de délinquants? Quel lien existe-t-il entre cette notion de feeling du rap et des paramètres sociodémographiques comme l'âge, le sexe, le lieu de résidence d'un individu quelconque? Quelle place détiennent le discours savant et les médias dans la construction de l'esthétique? Ces questions répondantes, et je m'arrête là, et peut-être qu'on pourrait approfondir d'autres choses au cours des questions et des commentaires. Merci.